La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Nous sortons à Saint-Flour d'un événement jazz auquel vous avez peut-être assisté, vous qui nous écoutez, et qui nous a emmené pas mal vers la danse et pas mal vers le vocal. Et en attendant de vous donner des échos sonores de ces trois jours, puisque nous avons enregistré un certain nombre de choses, nous allons rebondir sur le côté vocal en vous offrant aujourd'hui un concert d'Ella Fitzgerald.
Ça se passe à Montreux. En 1978.
Et c'est avec la collaboration de l'orchestre de Count Basie, très en forme. Et l'enregistrement de ce concert s'appelle « Le match parfait ». C'est plutôt d'ailleurs une collaboration qu'un affrontement comme match. Hein. Mais il faut dire que c'est très réussi et c'est pour ça que nous vous le présentons. Ella Fitzgerald n'est pas n'importe qui et sa biographie est assez particulière.
Elle commence par naître de père inconnu, ce qui n'est jamais très très rigolo, mais ce qui à l'époque est assez courant.
Elle disait « Mon père est mort peu après ma naissance et je ne l'ai jamais connu ».
Voilà, comme ça c'est plus simple.
C'était plus simple. Mais d'ailleurs on ne saura jamais exactement ce qu'il en est parce qu'on ne connaît pas le nom de son père en fait.
Elle va s'avérer une petite fille surdouée en musique tout de suite. Pourquoi en musique ? Parce qu'elle a une mère qui est une fanatique des musiques et en particulier bien sûr du jazz.
Et la mère et la fille, peu après la naissance d'Ella, mais quand elle est toute petite, passent leur vie à la maison à faire de la musique avec tout ce qui leur tombe sous la main, guitare, piano, enfin tout ce qui peut arriver.
Et puis quand elles pensent qu'elles sont un tout petit peu plus au point, si on peut dire, elles commencent à faire les concours de chant, parce qu'il y en avait des tas, des concours de musiciens, des concours de chant, c'était un vrai bouillonnement.
Son activité de ce côté-là devient intense, à partir de l'âge de 14 ans à peu près, et puis à force de courir les concours, elle finit par en gagner. Hein. Elle a 16 ans et c'est à l'Opéra House de Harlem et pas du tout à l'Apollo, comme l'écrivent les dictionnaires qui se compilent entre eux. L'Opéra House est un endroit important qui a totalement disparu depuis, populaire, et où le public pèse beaucoup sur la désignation des vainqueurs. Et là, la chanteuse de 16 ans, elle a vraiment conquis son public.
Bah ça lui permet de rentrer dans l'orchestre de Chick Webb.
Oui, mais alors ça se passe d'une manière très curieuse. Par hasard, à ce concours, assiste un musicien qui est un petit peu l'agent artistique, le public relation de l'orchestre de Chick Webb, et qui, à l'occasion, en est également le chanteur, parce qu'il n'y a pas de chanteur dans cet orchestre au sens plein du terme. Lui, il pense qu'il faudrait que cet orchestre ait une chanteuse, mais Chick Webb n'est pas chaud du tout pour ça. Le patron de l'orchestre, le batteur, pas chaud du tout.
Il va l'introduire, si on peut dire, auprès de Chick Webb. Alors, il faut savoir comment est Chick Webb. Physiquement, c'est un petit bonhomme qui est atteint d'une maladie des os. Il est donc extrêmement petit, tout à fait déformé, mais une énergie à la batterie fabuleuse. Chick Webb la regarde, puis dit non, il n'en veut pas.
Non, il n'est pas chaud du tout.
Oula.
Non, pas du tout. Alors finalement...
Le copain qui essaye quand
même. Ça insiste, bon bref. Finalement, il se laisse faire, comme on dit, nolens volens.
Et là, il est émerveillé par cette jeune fille qui a un talent fou malgré sa jeunesse.
Et c'est comme ça qu'à 17 ans, Ella Fitzgerald fait ses grands débuts au Savoy Ballroom. On a beaucoup parlé du Savoy Ballroom. On en a même projeté des images jeudi dernier.
Durant notre conférence.
Et c'est le temple du jazz et de la danse à Harlem. C'est le point central de tout ce qui se fait comme jazz dans Harlem, qui est à l'époque la capitale du jazz en plus. Et franchement, se retrouver à 17 ans devant 2000 danseurs tous les soirs, c'est pas rien comme expérience, mais elle fait l'affaire.
Et ça va continuer. Des années.
Elle va rester comme ça pendant 5 ans aux côtés de Chick Webb. Quand Chick Webb meurt, elle reprend l'orchestre à bout de bras pendant encore 2 ans.
Alors qu'elle est très très jeune. Mais cet orchestre, c'est sa famille, c'est sa maison.
Et on s'aperçoit à ce moment-là que non seulement elle a un impact considérable auprès du public, mais qu'elle a une flexibilité, un talent, une technique absolument incroyable qu'elle va donc cultiver, développer, exploiter. Et quand l'orchestre de Chick Webb finit par se dissoudre parce que les conditions économiques ont changé et beaucoup de grands orchestres sont obligés de s'arrêter, eh bien, elle enregistre avec divers groupes vocaux. Elle a beaucoup de succès. Donc son nom est vraiment de plus en plus connu. Et puis elle collabore un temps avec le grand orchestre de Dizzy Gillespie qui lui demande de développer le côté scat de son chant. Alors le scat, on pourra en parler une seconde, Le scat, c'est cette manière de chanter par onomatopée qui est pratiquée rituellement par tout le monde au concert.
Vous savez, ça fait babadudat.
Or, c'est un art extrêmement difficile. Ça a été inventé par Louis Armstrong qui s'en sert très peu, c'est-à-dire il s'en sert par petits bouts dans certains morceaux. Elle l'a également, a commencé comme ça. Elle a quelques morceaux de bravoure là-dessus. Mais en fait, les gens feraient mieux de ne pas scatter parce que c'est très vite scolaire.
Et un peu lassant.
Mais c'est toujours applaudi par les gens parce qu'ils n'y comprennent pas grand-chose finalement. Et de même qu'un solo de batterie, qu'il soit bon ou mauvais, est toujours applaudi. Enfin, tu sais, ça fait partie des choses comme ça. Et j'ai toujours très heureux quand je rencontre une chanteuse qui ne scatte pas.
Ça, c'est ton opinion. Bon.
Voilà. Bon, toujours est-il qu'elle ajoute ça à sa manière de chanter. Et puis, elle épouse le contrebassiste Ray Brown, ce qui la met en relation avec le plus grand impresario de jazz de l'époque qui s'appelle Norman Granz. Et là, vraiment, elle va faire une carrière à partir de là, propulsée.
Ce Norman Granz, il fait la pluie et le beau temps. Hein. Ça, c'est sûr, dans les milieux du jazz, c'est un homme d'affaires.
Il suffit que Norman Granz organise une tournée pour que ça soit plein à tous les concerts. C'est pas difficile. Et puis, à partir de là, bah, c'est 40 ans de tournée de festival.
Vous vous rendez compte, 40 ans.
Et nous allons quand même vous dire comment ça se passe, parce que nous avons assisté. Nous avons assisté à une tournée où il y avait donc l'orchestre de Duke Ellington et Ella Fitzgerald en première partie. Nous étions sortis pendant l'entracte, et à notre grande stupéfaction, on voit Ella poussée, tirée, propulsée dans une grosse limousine, mais vraiment, c'était à la limite qu'on lui fasse violence pour qu'elle monte très vite. Et elle s'en va. Alors là, ça nous a drôlement intrigués. Et après le concert Ellington, on a vu que les gens faisaient très vite leur rangement. On a quand même eu le temps de demander à quelques copains qu'on avait dans l'orchestre ce qui se passait. Réponse.
Ella est partie pour Francfort, où elle va commencer un autre concert. Ellington, lui et ses musiciens vont terminer le concert, commencer par Ella Fitzgerald, dans la même ville, à Francfort.
Et tout ça, ça suppose une bonne organisation, des vols d'avion et surtout de considérer les artistes comme des sortes de citrons compresses. Parce que franchement, faire vivre des choses pareilles à des gens qui commencent à prendre un peu d'âge, il y a vraiment de quoi les tuer prématurément. Là, on a été très choqués par ce qu'on a entendu et on a compris quand même que les impresarios américains étaient quand même des gens...
Allez, c'est sans pitié, on va dire.
C'est sans pitié. Enfin, écoutez, quoi qu'il en soit, nous nous trouvons à Montreux en espérant que ce n'était pas en descendant de l'avion. Le programme concocté par Ella est un mélange de standards et de chansons qui va se terminer en feu d'artifice. Voici les titres.
Please don't talk about me when I'm gone.
C'est-à-dire, ne parlez pas de moi quand je ne suis pas là, et vous remarquerez qu'à la radio, c'est exactement ce qu'on fait à chaque émission pendant une heure. Ensuite, alors un morceau, un tube increvable qui s'appelle Sweet Georgia Brown.
Après Some Other Spring.
Puis Make Me Rainbows. Oh, c'est joli ça.
Rainbow, vous savez, c'est l'arc-en-ciel.
Puis After You've Gone, qui est un morceau qui remonte tellement loin dans le jazz qu'il a été enregistré par Bessie Smith dans les années 20.
Après, il y a Round About Midnight.
Ça, c'est Thelonious Monk. Et puis, un grand succès de Billie Holiday. Petit clin d'œil, parce qu'on oppose souvent Billie Holiday à Ella Fitzgerald. Ça s'appelle Fine and Mellow.
Et ensuite, You've changed. Oh là là, tu as changé, mon ami.
Ensuite, le fameux morceau de Fats Waller, Honeysuckle Rose.
Et le hyper célèbre St. Louis Blues.
Qui a d'ailleurs été chanté sur scène pas plus tard que vendredi dernier par la jeune Romane.
Ah oui, qui a été vraiment... Elle a fait un tabac parce qu'elle était étonnante.
Ah oui, oui, vous avez à Saint-Flour quelqu'un qui vraiment va faire son chemin dans cette musique-là.
C'est une jeune voix, elle est encore plus jeune qu'elle l'a fait Gérald à ses débuts.
Et puis ça se termine par un morceau absolument formidable, une sorte d'improvisation entre Bézi et Ella Fitzgerald. Ça dure plus de 10 minutes. L'orchestre s'en mêle. Il y a de très bons solistes qui apparaissent, comme Eric Dixon au ténor et Booty Wood au trombone. Le batteur Mickey Rocker fait feu des quatre fers. Et ça s'appelle
Basella.
Naturellement, comme Bézi et Ella. C'est un titre assez bien trouvé. Et que nous reste-t-il à faire ? Eh bien, à vous souhaiter
bon concert. Here's a kiss, I hope.
It's not love. My wings, and together we'll fly. you, ladies and gentlemen. I thank you. There'll come a time when you'll regret it. There'll come a time when you'll regret it. Someday, when you grow lonely, heart will break like mine and you want me only. After you've gone away. Oh, did it,
thank you so much. And this one, we feature Danny Turner on the flute, and he plays so pretty.
It begins to tell round midnight. I do pretty well to laugh. After sundown, supper time, I'm feeling sad, but it really gets bad round midnight. Memories always start round midnight. Haven't got the heart
to share those memories when my heart is still with you. And then, midnight knows it too. When the quarrels we had needs mending, does it mean that our love is ending? Darling, I need you. Lately I find you're out of my heart and you're out of my mind. Let it out of heart say, midnight, let the angels sing for your return till that love is safe and sound. And I know midnight comes around. Play.
Stripes are oh so yellow. You're breaking my heart, you've changed. You've changed. Your kisses now are so blasé. You're bored with me in every way. I can't understand you've changed. You've forgotten the words I love you. Memory that we shared. You ignore every star above you. I can't believe you really care. You've changed. Yes, it's all over now. You've changed. You've changed. You're not the angel I once knew. No need to tell me that we're through. Yes, it's all over now. Yes, it's all over now. You've changed.
Thank you. I thank you, ladies. Thank you so much. Pass you by, and I know the reason why. Oh, your goodness knows you're my honeysuckle rose. Don't buy sugar, you just have to touch my cup. You're my sugar, cause you can so go sweet when you stir her. Yeah.
much. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you again.
Just as blue as I can be. I say my man's got a heart like a rock cast in the deep blue sea.
you, ladies and gentlemen. I thank you, dear.
Back on the Bye.
C'était La Planète du Jazz.
À la planète prochaine.